RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Étienne Pépin.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire du journal de ce mercredi 17 avril, le top départ des Jeux Olympiques sera donné dans 100 jours. Derrière la ferveur populaire de l'événement, certains dénoncent un nettoyage social de la capitale. On en parle dès le début de ce journal. Le gouvernement veut réduire le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027. Le plan de stabilité a été présenté ce matin en Conseil des ministres, mais la nouvelle trajectoire manque de crédibilité et de cohérence selon le Haut Conseil des finances publiques. Voilà, vous avez le programme. Merci d'être au rendez-vous. J-100 avant les JO, la flamme est allumée, les installations sont prêtes et Paris poursuit sa mue à 100 jours des Jeux Olympiques. Mais l'inquiétude demeure sur l'aspect sécuritaire et le possible repli de la cérémonie d'ouverture au Stade de France. Sur le plan social, ce matin, le plus grand squat de France a été évacué à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. Selon les associations qui accompagnaient les habitants, il s'agissait en grande majorité d'étrangers en situation régulière. Pour le collectif, le revers de la médaille, c'est une nouvelle illustration du nettoyage social de la capitale avant les Jeux Olympiques. Pierre Allauzet de Médecins du Monde intervenait régulièrement sur ce squat et était présent lors de l'expulsion. On l'écoute.
Ce matin, il y a 450 personnes qui se sont fait arracher de leur lieu de vie et nous, on a des dizaines de patients qui ce soir dormiront dans la rue. Les expulsions de squats d'exilés sur lesquels on intervenait avec Médecins du Monde, on en a eu 6 ou 7 là ces derniers temps. Les expulsions de campements, il y en a quasiment toutes les semaines depuis un an. On a du mal à suivre la cadence et nous, ce qu'on dénonce, c'est que ce nettoyage social, c'est pas juste contre les personnes exilées, c'est toutes les personnes à la rue. Et donc, il y a des personnes sans abri, travailleuses du sexe, usagères de drogue, personnes identifiées comme roms, qui se font aussi dégager de la rue ou de leur lieu de vie informel. Et en plus, encore une fois, les solutions qui leur sont proposées. Maintenant, dès qu'il y a une expulsion, on envoie les gens loin de Paris, dans les SAS régionaux. Et on a aussi une vague d'expulsions. Ça fait quand même un an que tous les lieux où il y a plusieurs centaines de personnes, ils se font vider systématiquement. Comme ça, il n'y aura aucune base arrière pendant les Jeux Olympiques. Tous les précaires, toutes les personnes qu'on ne veut pas voir sur la photo, elles seront loin de la capitale.
Les habitants du squat ont été acheminés en bus vers des SAS régionaux, notamment à Bordeaux et à Orléans. Un nouveau bilan pour les opérations labellisées Placenet XXL. Ces 9 opérations antidrogue ont donné lieu à près de 600 présentations à un juge et 186 mandats de dépôt. C'est ce qu'ont annoncé les ministres de l'Intérieur et de la Justice à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. En tout, il y a eu 3814 interpellations, plus de 500 armes saisies, 4 tonnes de drogue et 20 millions d'euros. C'est ce qu'a détaillé Gérald Darmanin. Toujours en France, le gouvernement veut réduire le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027. Le plan de stabilité a été présenté ce matin en Conseil des ministres, mais la nouvelle trajectoire manque de crédibilité et de cohérence face à une situation des finances publiques préoccupante. Selon le Haut Conseil des finances publiques, son président et président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a été auditionné aujourd'hui par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il est revenu sur le déficit de l'année 2023, le deuxième plus dégradé jamais enregistré après l'année 2020. À 173 milliards d'euros, le déficit a doublé en 4 ans. Pierre Moscovici a aujourd'hui voulu alerter les députés. On l'écoute.
J'aimerais partager avec vous un message d'alerte et de vigilance. L'absence de réforme et d'économie structurelle en 2023 va peser fortement sur la trajectoire de retour du déficit à un niveau soutenable. Alors que se pose la question du financement des investissements nécessaires à la croissance et à la transition écologique, la situation financière de l'État ne sera soutenable qu'au prix d'efforts considérables sur d'autres dépenses. Je l'ai dit et je le redis, ces efforts sont difficiles, mais ils sont encore possibles, ils ne sont contradictoires, à mon sens, ni avec une politique de croissance, ni avec le maintien du modèle social français, ni avec les exigences de la transition écologique, s'ils portent sur les dépenses peu efficaces, c'est-à-dire les dépenses de faible qualité. Et nous avons toute raison de penser qu'il y en a tout de même.
Voilà pour Pierre Moscovici. La trajectoire proposée par le gouvernement pour contenir le déficit demandera un effort considérable et forcément impopulaire. Le gouvernement doit maintenant convaincre l'opinion publique, Bruxelles et même les agences de notation qui doivent annoncer à la fin du mois si elles révisent ou non la note de la France. à l'étranger, au Moyen-Orient, après l'attaque contre Israël. Emmanuel Macron a jugé aujourd'hui qu'il est du devoir de l'Union européenne d'élargir le champ des sanctions visant l'Iran. Je cite « Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche. » En Ukraine, au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées dans une frappe russe à Tchernigiv, dans le nord du pays. Volodymyr Zelensky a mis en cause une nouvelle fois le manque d'aide de l'Occident. Cette attaque est la plus meurtrière contre cette ville située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec le Bélarus et à une centaine de kilomètres au nord de Kiev. Et puis les Émirats arabes unis touchés par des pluies diluviennes. Plusieurs villes de la région plus habituées aux canicules qu'aux inondations sont paralysées. À Dubaï, d'énormes files se sont formées sur les autoroutes littéralement submergées. Le pays désertique habituellement a enregistré 254 mm de pluie en une journée, soit l'équivalent de près de 2 ans de précipitations. Il est 9h05, c'est l'heure de notre grand format du jour à 100 jours pile des JO de Paris dans les transports, les gares et les stades sur la voie publique. La vidéosurveillance algorithmique va s'offrir un baptême grandeur nature sous l'œil inquiet de ses détracteurs. Il redoute une pérennisation et un élargissement à la reconnaissance faciale de ces dispositifs de surveillance. Bonsoir Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir Étienne, bonsoir à tous.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que la VSA ou vidéosurveillance algorithmique ?
Eh bien, ce sont des caméras augmentées, équipées de logiciels d'analyse d'image. Ils ont pour finalité de détecter en temps réel des événements prédéterminés. Ils ont été définis dans la loi Jeux Olympiques et Paralympiques, adoptée par le Parlement il y a maintenant un an. La société parisienne Wintix est l'une des 4 bénéficiaires du marché public de cette VSA. Explication du cofondateur de l'entreprise, Mathias Souillet.
L'idée, c'est en effet de rendre intelligent des réseaux de vidéoprotection existants en rajoutant une brique algorithmique. En effet, on parle d'intelligence artificielle, c'est des réseaux de neurones qu'on a entraînés à détecter tout un tas d'événements. Et l'idée, c'est que cette intelligence artificielle, elle soit capable de détecter sur n'importe quelle caméra un événement pour alerter un opérateur, attirer son attention pour que lui-même puisse regarder là où il se passe éventuellement quelque chose et lui-même prendre ensuite les décisions qui peuvent s'imposer. Tout ça est très encadré par la loi JO qui pose le cadre d'une expérimentation de la vidéoprotection augmentée. Parmi le cadre, il y a 8 événements qui sont autorisés comme pouvant être détectés par des algorithmes. Et donc, pour prendre quelques exemples, il y a en effet le mouvement de foule, des densités anormales de personnes, des départs de feu, des intrusions de personnes dans des zones interdites. Ça peut être aussi des bagages ou des objets délaissés.
La loi précise que la VSA pourrait être expérimentée pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles, particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes. C'est en sorte une forme de coup de pouce technologique face aux défis sécuritaires des JO.
Mais le déploiement de cet outil est vivement décrié par des associations de défense des libertés individuelles.
Oui, selon la loi JO, l'expérimentation doit durer jusqu'en 2025. Mais leur crainte, c'est de voir cette vidéosurveillance algorithmique laissée en héritage des jeux avec à terme une généralisation. Cela comporte des risques pour nos droits, estime Katia Roux, chargée de plaidoyer chez Amnesty International France sur les questions de technologie et de droits humains.
D'une manière générale, il s'agit tout de même d'une ingérence dans le droit à la vie privée de milliers de personnes, hein, et cette surveillance-là peut être légale et conforme au droit international que si elle est nécessaire et proportionnée. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre l'objectif légitime de sécurité. Parce qu'il est clair que quand on se sait, quand on se sent surveillé, eh bien on peut être amené à modifier son comportement, non pas parce qu'on a quelque chose à cacher ou à se reprocher, mais bien du fait d'un effet dissuasif de ces caméras. Et on pourrait être amené, par exemple, à s'auto-censurer, à ne pas, pourquoi pas rejoindre une manifestation. Donc on voit un vrai risque sur l'exercice des libertés fondamentales.
Auto-censure, mais aussi risque de discrimination si cette technologie devait être élargie. C'est ce que souligne Thomas Dossu, sénateur écologiste du Rhône.
Même si on peut se dire que, par exemple, identifier un bagage abandonné plus rapidement, c'est une bonne solution. Mais derrière, il y a d'autres usages, d'autres comportements dans l'espace public qui peuvent être ajoutés. Je pense à la mendicité, par exemple, qui pourrait être jugée comme un comportement anormal et sur lequel on enverrait automatiquement des agents de sécurité pour faire sortir les personnes qui sont en situation de mendicité. Et donc, on voit bien qu'on arrive dans une société de surveillance où les comportements seront codifiées par des gens qui n'ont pas forcément de légitimité démocratique à le faire.
Pour Thomas Dossus, les JO ont été le bon prétexte pour mettre en place ce type de technologie.
Mais alors Jean-Baptiste Laborde, que répondent les concepteurs face à ces critiques?
Chez Wintix, on explique que ces problématiques sont bel et bien prises en compte dans l'élaboration des logiciels, c'est ce qu'indique Mathias Houillet.
Dès la conception des algorithmes, tout ça est pris en compte dans notre façon de faire chez Wintix. Il y a d'un côté les engagements qu'on prend. Par exemple, chez Wintix, on est engagé à ne jamais faire de reconnaissance faciale, donc on n'en a jamais fait et on n'en fera jamais. Mais c'est aussi des engagements qu'on prend dans la conception. Et on fait en sorte, pour entrer un peu dans la technique sur ce qu'est un algorithme d'intelligence artificielle, on fait en sorte que dans les données d'entraînement, c'est-à-dire les exemples qu'on montre à nos algorithmes pour qu'ils soient capables d'apprendre des choses, ben on fait en sorte que nos jeux de données d'entraînement ne présentent aucun biais, qu'ils soient équilibrés, quelles que soient les situations, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment le plus de précision possible et qu'il n'y ait aucun biais.
Le mot a été prononcé, reconnaissance faciale.
Oui, car pour les détracteurs de ces technologies, la VSA ouvre en effet la voie à des systèmes toujours plus intrusifs, comme cette fameuse reconnaissance faciale, c'est-à-dire l'identification d'une personne directement par les images de vidéosurveillance, comme cela existe en Chine. Elle a été écartée de la loi JO et aucune des solutions proposées par les quatre sociétés retenues par l'État pour la vidéo augmentée ne permettront cette reconnaissance faciale. Mais en juin dernier, le Sénat avait adopté une proposition de loi encadrant, dans certains cas, l'utilisation de cette reconnaissance faciale. C'est ce que rappelle Katia Roux.
Effectivement, une proposition de loi du Sénat est venue, alors, dans son premier article, poser un principe d'interdiction générale et dans les articles suivants, introduire tout un tas d'exceptions pour, en réalité, pouvoir utiliser la reconnaissance faciale dans les domaines liés à l'application des lois et au maintien de l'ordre. Or, on sait que ce sont précisément dans ce domaine que les risques en matière de droits humains sont les plus élevés. Certes, elle a été exclue du dispositif JO, elle a même été agitée comme un chiffon rouge pour mieux faire accepter le dispositif de vidéosurveillance algorithmique, mais on constate très clairement que les autorités françaises ne sont pas prêtes à abandonner cette option-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise pour que cette interdiction soit formelle, explicite, et que l'usage de la reconnaissance faciale dans nos rues, dans l'espace public, pour identifier des personnes, par exemple, lors d'une manifestation, soit interdit par la loi.
Voilà un dossier signé Jean-Baptiste Laborde. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain matin à partir de 6h30 avec Lucie Rispal dans la matinale de Pierruc Dubois. Bonne soirée.